L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
L'heure est grave. Nous sommes au Palais Royal de Bruxelles, en plein cœur de la capitale européenne. Depuis la veille, la Chambre vient d'adopter un texte visant à dépénaliser partiellement l'avortement. C'est le dernier pays, avec l'Irlande, à faire barrage à cette évolution dans le droit des femmes à disposer d'elles-mêmes. Et Baudouin, les yeux dans le vague, regarde sur la place des Palais les badauds qui passent à droite, à gauche. Il a le visage fermé, considérablement. Le cas de conscience qui se pose pour lui ce matin est le plus délicat de son règne. Catholique, fervent pratiquant, il ne voit pas comment il pourrait dissocier sa personne de sa fonction. Il ne tolère pas cette idée que les femmes puissent stopper le processus de la vie. C'est au-dessus de ses forces. Le roi, cette année, a 60 ans. Et si c'était le bon moment pour tirer sa révérence, pour partir ? S'il refuse de signer ce texte, il le sait, il ne sera plus roi. Il souhaite avoir une discussion à ce sujet avec sa femme, Fabiola. Le couple est particulièrement aimé par la population. Mais cette décision, ce qu'il se trame, ce serait inédit de ne pas accepter un texte légalement adopté par le seul pouvoir qui compte, le législatif. Tout va se décider ce matin, lors de cet échange qui va changer la face de tout le pays. La reine arrive, ses chaussures font craquer le parquet. Nous sommes le 30 mars 1990. La montre du roi affiche 10h25 et c'est l'heure H de mon histoire. Longtemps, leur majesté, roi et reine d'un pays, mais mari et femme avant tout, ont discuté. Dans ce bureau magnifique, une tapisserie médiévale au mur, un tableau de Léopold Ier derrière sa chaise de bureau, Baudouin n'a pas beaucoup parlé. Non, il a écouté sa femme. Et c'est pas étonnant. Le souverain a besoin d'être rassuré. Devant lui, sur le bureau, une feuille blanche et un stylo plume, son préféré. S'il se décide à agir, c'est une lettre au Premier ministre qu'il va devoir écrire et envoyer. Ce qui mettra assurément le feu aux poudres. Il hésite encore, porté par son devoir qu'il tient chevillé au corps depuis des dizaines d'années. Cette fonction, c'est toute la vie de Baudouin, qui derrière ses grosses montures de lunettes cache des cernes qui témoignent de sa fatigue installée depuis plusieurs jours. Sa cravate est serrée à l'extrême, comme tendue elle aussi par ce rapport de force qui s'engage entre conviction personnelle et devoir de souverain. Fabiola, elle, tente bien que mal, assise sur un fauteuil de tissu bleu, de montrer à son mari qu'il aura tout son soutien, quoi qu'il arrive. Baudouin, anxieux, hésitant, joue avec ses doigts, transpire et sa sueur perle sur ses tempes. Rasé de près, il s'est coupé au menton ce matin et sa plaie, fine, nette, tranche avec sa mine pâle et inquiète. Il se lève, regarde à l'extérieur, puis se rassoit. D'un coup, sans aucune délicatesse, avec la lourdeur de l'incertitude, de l'anxiété. Le roi est un homme d'État depuis longtemps. Il connaît ses droits, ses devoirs et les obligations inhérentes à la fonction qui est la sienne. Mais cette fois, c'est différent. Cette fois, c'est sa foi qui est attaquée. La religion catholique, c'est bien connu, est fondamentalement opposée à la notion d'avortement. Et puis, eux, le couple royal, ils n'ont jamais eu la chance d'en avoir, des enfants. Alors imaginez que celles qui peuvent procréer puissent avoir le droit de vie et de mort sur un être vivant. À cette perspective, ils frissonnent. Fabiola, elle, ne parle plus, elle attend. La reine et l'épouse savent que lorsque le souverain fait les 100 pas et ne cesse de changer de position, elle doit attendre. Le verdict est proche. Les idées, dans cet esprit perdu entre les problèmes insolubles, se mettent en place. Et voilà qu'il se plante devant une des fenêtres et qu'il regarde la pluie fine qui tombe. Les gens qui circulent sur les trottoirs à toute vitesse cherchent à se mettre à l'abri. Ici, un homme en impair qui paraît presque être tout droit sorti des années 50. Là, des touristes avec une poussette et un nourrisson qui tangue sur les pavés. Le parc royal, juste en face du château, est caché derrière le rideau des gouttes. Ouais, mais quelle décision prendre, hein ? Le soutien de Fabiola, assurément, est pour lui une indispensable condition pour agir. Sans surprise, la reine se range derrière son mari. Entre la fonction ou les convictions, il faut choisir. Sur son bureau, sans que personne ne décroche, le téléphone sonne depuis plusieurs minutes. C'est l'un des proches collaborateurs de Baudouin. Le Premier ministre, certainement, qui cherche à le joindre. Ça ne fait que peu de doute. Il ne veut pas lui parler. C'est pas le moment. Lentement, Baudouin, les yeux humides, tourne sa tête d'un quart et plante ses yeux dans ceux de la reine. Elle n'a pas bougé. Elle le regarde. Et lui, il comprend. Sa décision est prise. Le destin de la Belgique, lui, s'apprête à basculer. En l'espace d'une petite heure, après de nombreux brouillons, Baudouin a terminé sa lettre. La reine est toujours là. Elle attend que son mari lui relise son contenu définitif. Elle a souvent eu le droit de donner son avis. Et aujourd'hui, plus que jamais, les mots du roi sont écrits avec le soutien de son épouse. Soudés dans l'épreuve du manque de la parentalité qui les a affectés, ils ont noué depuis toujours des liens indéfectibles. À l'opposé du volcan incarné par la relation de son frère et de la princesse Paola, ils avancent toujours avec mesure, main dans la main. Le roi éclaircit sa voix, se dégage la gorge, regarde sa femme une dernière fois et, l'air grave, annonce le contenu de cette missive qui sera des plus explosives. Monsieur le Premier ministre, ces derniers mois, j'ai pu dire à de nombreux responsables politiques ma grande préoccupation concernant le projet de loi relatif à l'interruption de la grossesse. Ce texte vient maintenant d'être voté à la Chambre après l'avoir été au Sénat. Je regrette qu'un consensus n'ait pu être dégagé entre les principales formations politiques sur un sujet aussi fondamental. Ce projet soulève en moi un grave problème de conscience. Je crains en effet qu'il ne soit compris par une grande partie de la population comme une autorisation d'avorter durant les 12 premières semaines après la conception. J'ai de sérieuses appréhensions aussi concernant la disposition qui prévoit que l'avortement pourra être pratiqué au-delà de 12 semaines si l'enfant à naître est atteint d'une affection d'une particulière gravité et reconnue comme incurable au moment du diagnostic. A-t-on songé comment un tel message serait perçu par les handicapés et leurs familles ? En résumé, je crains que ce projet n'entraîne une diminution sensible du respect de la vie de ceux qui sont les plus faibles. Vous comprendrez donc pourquoi je ne veux pas être associé à cette loi. En signant ce projet de loi et en marquant, en ma qualité de troisième branche du pouvoir législatif, mon accord avec ce projet, j'estime que j'assurerai inévitablement une certaine co-responsabilité. Cela, je ne puis le faire pour les motifs exprimés ci-dessus. Je sais qu'en agissant de la sorte, je ne choisis pas une voie facile et que je risque de ne pas être compris par un bon nombre de concitoyens. Mais c'est la seule voie qu'en conscience je puisse suivre. À ceux qui s'étonneraient de ma décision, je demande : serait-ce normal que je sois le seul citoyen belge à être forcé d'agir contre sa conscience dans un domaine essentiel ? La liberté de conscience vaut-elle pour tous ? Sauf pour le roi. Je voudrais terminer cette lettre en soulignant deux points importants sur le plan humain. Mon objection de conscience n'implique de ma part aucun jugement des personnes qui sont en faveur du projet de loi. D'autre part, mon attitude ne signifie pas que je sois insensible à la situation très difficile et parfois dramatique à laquelle certaines femmes sont confrontées. Monsieur le Premier ministre, puis-je vous demander de faire part de cette lettre à votre convenance, au gouvernement et au Parlement. Fin de la lecture. Le souverain, lentement, pose sa feuille sur son bureau. Il attend une réaction de Fabiola. Durant toute la prise de parole de son mari, elle n'a pas dit un mot. Elle lève la tête, prend son inspiration. Elle sait que l'heure est grave. Cette missive est parfaitement en ligne avec ce qu'ils peuvent tous deux penser. Alors, sans rien dire, elle oscille la tête par l'affirmative. Baudouin tend donc le bras droit vers son tiroir le plus proche et y attrape une enveloppe à en-tête royale. Il y note l'adresse des bureaux du Premier ministre. Il ne sait pas encore si cette solution est la meilleure, mais il la prend en âme et conscience. Il n'a pas dit un mot depuis au moins une demi-heure. Et cela va continuer encore un moment. Le roi se lève. Son épouse lui emboîte le pas. Ils sortent du bureau. Des collaborateurs du souverain sont là. Ils attendent. À la vision de l'enveloppe, la plupart ont compris. Certains se grattent la tête d'anxiété. Cette décision peut être le début d'une grave crise. C'est la fonction même de Baudouin qui vacille. Et pire encore, avec lui, la couronne. Fabiola, d'un geste, se retourne vers eux et tente de les rassurer d'un regard. Mais elle échoue. Politique avisée, ils ont compris que ce choix allait provoquer des remous dignes de ceux d'un tsunami. Tout le palais, déjà, retient son souffle. Notre histoire commence la veille de ce moment décisif. La Chambre en Belgique est un organe politique déterminant qui vote les lois et incarne un pouvoir législatif fort dans lequel députés et sénateurs sont les garants du bon fonctionnement du régime. Ce même régime qui voit le roi Baudouin être à sa tête. Aujourd'hui, 29 mars 1990, Roger Lallemand est un homme qui entre dans l'hémicycle avec la rage des vainqueurs dans le vent. Ce sénateur PS est une des têtes pensantes de la loi de dépénalisation qu'il essaie de faire passer et qui, ce matin, passe au vote. L'autre figure du projet s'appelle Laurence Mikkelsen, du VLD, le Parti libéral flamand. Une femme qui porte en son cœur les engagements féministes depuis qu'elle est née au cœur des années 20. Les deux figures de leurs partis respectifs se sont vues longuement ces derniers jours. Laurence Mikkelsen est sûre de son coup. Ils auront assez de votants pour enfin emboîter la marche de l'histoire. Chez les voisins français, la loi de Simone Veil, aussi porteuse que salvatrice, a été votée il y a plus de 15 ans. C'est peu de dire que le plat pays est en retard sur le sujet. Pourtant, bien que l'air du temps soit incontestablement de leur côté, la classe politique, elle, en partie, est assez réticente à l'idée de laisser passer ce type de loi. Il faut dire que certains partis traditionnels, tout comme le roi et une partie de l'opinion, placent en paravent leurs convictions personnelles pour stopper tout projet de la sorte. Leur lien intime à la religion n'y est pas étranger. En tous les cas, Roger Lallemand est un homme pressé. Il monte les marches 4 à 4, frotte la tâche qu'il vient de faire sur sa chemise avec un de ses mouchoirs bleus à fleurs, sa mallette sous le bras. Et essoufflé, il arrive juste à l'heure, d'un regard noir. Mikkelsen le regarde avec un brin de sévérité. Le sénateur lui répond par un sourire. L'Allemand est coutumier de ce genre de délibération couperet, mais jamais il ne s'y est habitué. C'est toujours un stress profond qui l'assaille dans ces moments-là. Aujourd'hui, il a une saveur particulière. La situation le renvoie à l'un de ses vieux combats, plus particulièrement à l'année 1973. Alors qu'il ouvre sa mallette et qu'il étale ses dossiers un peu à la va-vite, dans son esprit ressurgit une vieille affaire, celle du docteur Willy Peirce. Il a été à cette époque l'avocat de cet homme qui, longtemps, eut le courage de braver l'interdit pour offrir aux femmes une solution décente pour avorter. Dans l'illégalité, certes, mais ces plus judiciaires, des plus violentes, des plus clivantes, a permis d'ouvrir la voie qui les conduit de manière inexorable au vote d'aujourd'hui. L'Allemand lève sa tête vers sa consœur et, cette fois, la lionne des Flandres lui adresse un sourire, timide, marqué d'anxiété. Nouveau sourire du sénateur PS. Willy Peirce a, bien malgré lui, prouvé que le système tel qu'il existait devait évoluer. Féministe jusqu'au bout des ongles, le médecin s'est engagé en faveur de nombreuses luttes, de la démocratisation des moyens de contraception à la généralisation de l'accouchement sans douleur. À la clinique de Namur, dans laquelle il officie, il pratiquait des avortements. Illégaux, totalement illégaux, mais réalisés dans un cadre professionnel et sans jugement envers les femmes qui venaient s'y faire aider. Au fond, l'homme fut assurément l'une des premières figures de proue de l'avancée des droits des femmes en Belgique. Sujet qui, comme ailleurs aussi, a longtemps été tabou. Alors oui, les politiques belges sont en retard sur la question de l'IVG, mais peuvent compter sur des premières lignes solides. En tous les cas, Peirce, sans surprise, avait fini par se faire dénoncer et avait dû assumer ses actes devant la justice de son pays. C'est là que le sénateur l'Allemand est entré en scène pour le défendre en sa qualité d'avocat. Régine Carlin, célèbre avocate sur le plan national, a aussi rejoint cette équipe de choc pour assurer la défense du professionnel de santé. Peirce a reconnu avoir pratiqué près de 300 avortements durant les 9 mois précédant son procès et sera condamné à une amende salée et à de la prison ferme. C'est à ce moment que le combat a véritablement commencé. L'Allemand ajuste ses lunettes et essaie du regard de déchiffrer les expressions faciales de ses collègues. Ouais. Il aimerait être certain, mais c'était une affaire vraiment délicate. Il est fier pourtant de porter avec ce projet le mouvement bien présent dans la société du droit des femmes de disposer de leur corps. Cela lui semble, de son côté, un débat qui ne devrait pas en être un. Cette évolution des mœurs est indispensable. Alors que les autres s'installent et que la séance va s'ouvrir officiellement, ému, le sénateur repense une dernière fois à son ancien client. Peirce est mort en 1984. Et l'Allemand espère de tout cœur qu'il peut voir de là-haut que sa lutte lui a survécu. L'heure de la dernière charge, elle, a sonné. Au loin, le porteur du projet pourrait presque entendre le clairon qui annonce le choc à venir. Il est on ne peut plus sûr d'être du bon côté de l'histoire. Sa collègue avec laquelle il a amené cette loi au vote, elle, déjà, est sur la brèche. Elle attend avec vigueur les premiers débats. Cette bataille législative va entrer dans toutes les mémoires. Mieux, elle va faire l'histoire avec un grand H. Le processus haletant, vif, dur, se ponctue par une victoire, enfin, pour le camp de ceux qui poussent la dépénalisation de l'IVG. Officiellement, s'il est réalisé dans le strict cadre de la loi, il ne peut plus entraîner de poursuite au pénal. C'est donc une dépénalisation partielle. Mais enfin, et c'est une victoire d'importance, implicitement, on offre pour la première fois aux femmes un droit sur la gestion de leur corps. Pour l'Allemand, pour Mikkelsen et tous ceux qui, dans l'opinion, soutenaient ce projet, c'est un véritable coup de force. Une victoire durable sur le patriarcat et l'autoritarisme malsain que certains hommes veulent imposer aux femmes. Alors qu'on est en 1990, faut-il le rappeler. Pour d'autres, en revanche, ce vote, cette expression législative, c'est un véritable camouflet. Dont le couple royal, oui, mais aussi dont certains partis politiques et une frange non négligeable de la population. Un homme, en particulier, tout en haut de la pyramide politique nationale, se sent bien seul lorsqu'il assiste au vote débouchant sur la dépénalisation de l'IVG. Il s'appelle Wilfried Martens. Il est Premier ministre. Baudouin Ier, déjà, lui a laissé sous-entendre que depuis quelques jours, il n'hésiterait pas à rejeter l'idée de signer le texte de loi pour garantir son application si sa conscience lui dictait le contraire. Alors autant vous dire que dès le 29 mars au soir, l'homme politique aux manettes est en train de suer. à grosses gouttes. Une crise politique, il n'en veut pas. Pourtant, un refus royal serait quelque chose d'inédit, de dangereux même. Un peu comme une virée sur une patinoire sans patin pour toute la classe politique du pays. Lorsqu'il rentre chez lui ce soir-là après le vote, Martens hésite à prendre son téléphone et à sonner au palais. Il ne le fait pas. Il décide d'attendre le lendemain. Dans ses mémoires, l'homme politique notera que la décision royale le prit totalement par surprise. C'est pas tout à fait vrai. Les allusions du monarque, et ce, quelques jours avant le vote, sont assez explicites. Lorsqu'il reçoit la lettre royale le lendemain, son front tombe. Au courant ou pas, la crise qui s'annonce maintenant de manière officielle est l'une des pires que le pays ait connue depuis bien longtemps. Comment légiférer un texte voté démocratiquement par les représentants du peuple sans risquer l'abdication du roi, le plus aimé depuis l'arrivée au pouvoir, des Saxe-Cobourg ? Oh non, il ne va pas être simple de trouver une réponse à cet insoluble problème qui ressemble bien à un nœud gordien. Trancher dans le vif ou faire preuve de diplomatie, les options ne sont pas beaucoup plus nombreuses. Wilfried Martens va vers des jours difficiles. La crise couve et il va falloir désamorcer la bombe, au risque de faire exploser tout le palais.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, mon heure H se penche sur une affaire politique totalement dingue qui secoua notre pays au début de l'année 1990. Pendant quelques jours de ce début de printemps, la Belgique n'avait plus de roi sur le trône. Réfractaire à l'idée d'accepter ce que sa conscience refuse, Baudouin Ier décide de ne pas signer le texte permettant l'application de la loi sur la dépénalisation de l'IVG. Problème, la loi est déjà votée. Au risque de voir le souverain abdiquer, la classe politique va devoir se mobiliser pour trouver une solution, aussi rapidement que possible. Nous sommes le 1er avril 1990. Le jour est levé depuis quelques heures seulement. La presse, mise au courant du refus du roi de signer, se réveille dans la stupeur. Le pays se déchire et les nombreuses opinions sur le sujet qui fâche sont débattues à la radio dès les premières matinales mises en route. Certains, surtout à droite de l'échiquier politique, parlent de courage. D'autres, de faute grave et de lâcheté. D'habitude, si consensuel, le moins que l'on puisse dire, c'est que le roi Baudouin attire sur lui les foudres des uns et la compassion des autres au travers de cette prise de position nette, tranchée. Ce matin, plus que jamais, le Premier ministre Wilfried Martens est accroché à son téléphone. Il porte un costume trois pièces bleu rayé, une cravate assortie qui fait ressortir un double menton naissant. Sa montre affiche à peine 9 heures et voilà déjà qu'il harcèle le palais. Le but ? Parler au roi. Depuis la veille au soir, il tente de le convaincre de revenir sur sa position. Le souverain répond, poli, courtois, comme à son habitude, mais refuse de changer d'avis. Et ce matin encore, Baudouin annonce qu'il préfère abdiquer plutôt que de signer la loi comme la Constitution l'oblige à le faire. Martens ajuste sa cravate qui part de travers, déglutit avec peine et se prend pleine figure la montagne qu'il entreapercevait la veille au soir. C'est la crise, de manière incontestable. Mais comment ? Comment se sortir du bourbier ? L'homme politique n'en a aucune idée. La Belgique n'est assurément pas un pays qui fonctionne avec agressivité ou impulsion en politique, pas plus qu'ailleurs. C'est bien sûr ce qu'on appelle le fameux compromis à la belge. Martens déteste la formule, mais c'est pourtant un bon résumé de ce qui peut se faire dans le pays. Mais aujourd'hui, il est au pied du mur. Il ne sait pas comment il pourrait enrayer le processus qui s'est mis en marche avec le refus du roi. Alors, il tente de le convaincre. Heure après heure, il rappelle peaufine ses arguments, tente de trouver une solution qui permettrait à Baudouin de ne pas se mettre en porte-à-faux. Mais au fond, ce qu'il propose au roi, c'est de signer et de regarder ailleurs. Ce que le souverain, placidement, courtoisement, refuse catégoriquement. Lorsque Martens lui annonce que sa personne et ses convictions sont un aspect de ce qu'il est et que ses fonctions, elles, doivent primer, Baudouin répond laconiquement que les deux faces ne font qu'une dans sa vision des choses. Ce qu'il se passe est insoluble, totalement impossible à démêler. Un des ministres du gouvernement souffle à son chef que le roi pourrait, pourquoi pas, signer et publier une lettre pour exprimer sa position personnelle. Là encore, il refuse. Pas de séparation entre personne et fonction. Heureusement pour le Premier ministre, la surprise, si elle est vive, n'est pas totale. Durant les débats, le souverain déjà avait laissé sous-entendre qu'il ne signerait pas si la loi était votée. Il avait donc eu l'occasion, avec son conseil des ministres, de réfléchir à une parade. Ils l'ont trouvée. Mais la mettre en place demande du tact, et pour la population et pour le souverain. La Constitution en Belgique offre une multitude de possibilités d'interprétation de la loi. Le but de ce genre de texte étant de prévoir toutes les situations possibles pour ne pas se retrouver le moment venu dans l'illégalité. Martens se lève de sa chaise et attrape sa tasse de café. Dehors, il fait beau, les oiseaux chantent. Oh, cela tranche assurément avec l'ambiance lourde et pesante de ses bureaux. Un petit air de western à la Clint Eastwood. Voilà ce qu'ils vivent, les responsables de l'État lors de ces jours de bouleversement politique. Martens avale rapidement une gorgée, il grimace. Bien entendu, retoquer la loi une fois qu'elle est votée, c'était impossible. Personnellement, il ne l'a pas votée. Mais la démocratie est le sacro-saint régime de tous les États parlementaires. Envisager l'abdication du roi non plus n'est pas une solution. Derrière, Baudouin se cache son petit frère, Albert, et vu le bazar dans lequel ses histoires personnelles l'impliquent actuellement, le voir arriver sur le trône ne serait certainement pas une source d'apaisement. Non. Il faut trouver une autre parade. Mais ça n'a pas été simple. Mais les légistes sont généralement des gens aux compétences bien affirmées. Sur son bureau derrière lui, une farde est posée. Griffonné au stylo sur la première de couverture, ce petit mot accompagné d'un chiffre hautement symbolique. Article 82. Le fameux article 82. Celui promulgué en cas d'incapacité pour le roi de régner. Et il stipule ceci. Si le roi se trouve dans l'impossibilité de régner, les ministres, après avoir fait constater cette impossibilité, convoquent immédiatement les chambres. Il est pourvu à la tutelle et à la régence par les chambres réunies. Certes, disons-le clairement, ce fameux article 82 existe dans le cas où la Belgique se retrouve avec un roi qui perd l'esprit. C'est loin d'être le cas de Baudouin, mais à situation exceptionnelle, solution exceptionnelle. Certes, la marche à suivre pour obtenir sa validation est longue et promet au gouvernement Martens de belles nuits blanches pour rapidement sortir le pays de l'impasse dans laquelle il se trouve. Mais on tient peut-être là la solution. Dans un premier lieu, lorsqu'on lui annonce ce qui peut être envisagé et ses conséquences, le roi Baudouin est sceptique. Il hésite. Pourquoi ne pas abdiquer tout court après tout ? Mais les arguments des ministres et de Martens font mouche. Son sens du devoir l'emporte. Ce que le gouvernement lui propose, c'est d'abdiquer, oui, mais uniquement le temps que la loi soit signée, promulguée et donc validée. Après cela, il revient sur le trône et fin de l'histoire. Vous allez me dire, tout ça pour ça ? Eh ben oui, tout ça pour ça. Sur le papier, la solution est trouvée, mais il va falloir maintenant la faire accepter à l'opinion et au-delà, tout organiser pour que cette petite entourloupe, digne des meilleurs films à suspense, puisse se réaliser. Et c'est loin d'être une sinécure. Lorsqu'il comprend que tout est aligné pour que la solution qu'il a trouvée se mette en place de cette manière, le Premier ministre ne peut s'empêcher de sourire. Comme un clin d'œil du destin, c'est lui qui va devoir signer le projet de loi. Lui qui n'a pas voté. Surtout, tous s'attendent à prendre une volée de bois vert de la part de l'opinion. Et ils ne sont pas au bout de leur surprise.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, l'heure H est consacrée à une véritable bombe politique qui explosa au début de l'année 1990. Le roi Baudouin, qui s'apprête à fêter ses 60 ans, refuse d'accepter la dépénalisation de l'IVG en Belgique en mettant dans la balance son abdication. Une sortie de crise se profile enfin, mais le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est bancale, incertaine. Le Premier ministre Martens n'a pas fini d'avoir des sueurs froides. L'affaire n'est pas terminée. Et il reste quelques nuits d'angoisse à passer pour tout un gouvernement qui tente maintenant de sauver les meubles. Nous sommes le 3 avril 1990. Au début de la nuit, au château de Steuvenberg, il est 23h45. Wilfried Martens regarde son cadran de montre. Tout est en place. Les textes sont prêts, les ministres sont là, présents. Tous le regardent. Les ampoules diffusent une lumière jaune qui donne à l'atmosphère un air bien particulier. L'entourloupe est en marche. Ce n'est pas la première fois que l'article 82 est mis sur la table. En 1940, le roi Léopold III, prisonnier en Allemagne, avait de fait également été dans l'impossibilité de régner. Mais c'était en rien une affaire de prise de position. Là, c'est bien différent. Enfin, Martens se détend un peu. Finalement, la loi sera votée et le roi restera bien en place au terme de la procédure. Donc, tout s'arrange. Surtout, et cela a totalement surpris le Premier ministre, l'opinion s'est vite détournée de ce scandale potentiel. Déjà, quasiment plus de titres dans la presse pour en parler. Oh, bien entendu, certains ont été choqués, arguant que la Constitution devenait illégitime, que l'on pouvait, au fond, passer outre. D'autres, cependant, et c'est le cas de certains de ces ministres, avancent le fait que c'est la popularité de Baudouin qui a, au fond, permis que cette manœuvre soit acceptée de l'opinion. Le premier conseil des ministres exceptionnel qui vota l'impossibilité pour le roi de régner dura plusieurs heures. Son objectif est simple. Constater que le roi ne peut plus régner. Voilà qu'à l'issue d'une discussion courue d'avance, le roi n'est plus roi. Officiellement, Baudouin n'a plus la capacité de régner de manière officielle. La première étape est enclenchée. Martens et les siens ne peuvent plus reculer. Ce premier conseil, rapidement, est suivi d'un deuxième, chargé de signer le texte. Wilfried Martens, l'espace d'un instant, laisse flotter son stylo au-dessus de la feuille. Ne se pose pas la question de la signer, il va le faire, assurément. Mais il repense à ces derniers jours si difficiles, dans lesquels ils ont dû, nombreux, trouver une solution pérenne pour allier les deux côtés du problème. Quelle manœuvre, quand on y pense. Quel stratagème. C'était vraiment du grand bricolage. La situation ne leur a pas laissé le choix, c'est vrai. On ne peut pas dire le contraire. Pour autant, cette solution a été celle du dernier recours, permettant d'échapper à une profonde crise institutionnelle. Enfin, elle avait été évitée, certes, mais de peu. Tous les ministres autour de la table le savent. Le Premier ministre regarde une dernière fois ses collaborateurs, puis signe, d'un trait, sans fioriture. L'IVG est dépénalisé en Belgique. En retard parfois de 15 ans par rapport à certains de ses voisins. Le plat pays a pris le train de l'histoire. À grands coups de manœuvre, certes, mais le train Belgique est tout de même sur les bons rails. Voilà presque 36 heures que la Belgique n'a plus de roi. En tous les cas, de manière officielle, le 5 avril au petit matin. Il est dans l'impossibilité de régner. Les chambres réunies, dans une effervescence comme rarement les politiques en place ont pu la connaître, se rassemblent pour mettre un point final à toute cette histoire. L'Allemand est là. Il s'est installé à côté de Mikkelsen. Tout un symbole. Les porteurs du projet, jamais, n'auraient pu envisager qu'ait lieu une telle mascarade à la suite du vote de ce texte qui, pour eux, va assurément dans le bon sens. La Belgique n'a plus de roi, mais il faut lui en redonner un. Permettre à l'impossibilité de régner d'être levée. Personne n'envisage sérieusement une autre solution que celle-ci. Baudouin, malgré son hostilité à la loi et son coup de force totalement inhabituel, est une figure plus que respectée du pays. Elle est tutélaire. Plus que sa fonction, en l'occurrence, c'est sa personne qui fait consensus dans le pays depuis déjà bien longtemps. Celui qui arriva sur le trône jeune et inexpérimenté, aujourd'hui, porte sur le visage les rides de l'expérience et surtout reste la meilleure des figures de ralliement autour du drapeau. S'identifier à la monarchie, au roi, c'est s'identifier de facto à ce que peut être la Belgique dans son ensemble et dans son fonctionnement politique. Alors d'un seul homme, les deux chambres réunies mettent fin à l'impossibilité pour le roi de régner. Baudouin est de retour. Il n'a pas eu à signer le texte sans détourner le regard. Ni même à séparer sa personne de sa fonction, non. C'était tout ou rien. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette manœuvre lui permet de rester fidèle à ses principes. Mais à quel prix ? Cette situation aurait pu être évitée. Le 30 janvier 1990, dans un discours, Baudouin marque son désaccord avec l'IVG alors que le projet de loi est déjà dans les tuyaux. C'est bien avant les alertes qu'il lance au Premier ministre, une fois la loi votée par les chambres, 2 mois plus tard. Ce refus de signer, pour certains, reste une forme de courage, pour d'autres, un déni profond de démocratie. Et cette gêne aurait dû engendrer des ajustements politiques à la suite de cette affaire, qu'on prenne de nouvelles dispositions pour éviter de nouvelles situations de ce genre. Pourtant, ce n'est pas le cas. Aucune législation ne vient contrebalancer la possibilité pour le souverain, un jour, de reprendre ce genre d'initiative qui, disons-le, ne font pas de bien, c'est le moins que l'on puisse dire, au régime et surtout à la démocratie. Alors oui, certainement. On peut accorder à Baudouin le fait d'avoir eu le courage de maintenir ses positions personnelles, oui. Mais il l'a fait en oubliant qu'il était roi et que peut-être le sens du devoir aurait dû l'obliger à signer ce texte, même si c'était en détournant les yeux. L'histoire en aura décidé autrement, mais la Belgique aurait pu plonger dans une profonde crise politique et institutionnelle. L'affaire qui ébranla le pays, il y a maintenant plus de 30 ans, assurément, a marqué la classe politique et le régime dans son ensemble. Grâce à une solution trouvée au dernier moment et à la suite de longues concertations, Baudouin est resté sur le trône et le texte a été adopté, sans sa caution. Fervent catholique, soutenu par la reine Fabiola, qui, elle aussi, s'oppose à tout type d'avortement, le souverain a campé sur ses positions et jamais ne changera d'avis. Aujourd'hui, la question d'une dépénalisation totale est sur la table dans notre pays. Une première tentative a échoué en 2020, mais rien n'est perdu et la lutte, elle, continue. L'épisode de l'adoption de cette loi, au fond, c'est l'histoire d'une époque, celle d'une Église qui, tout comme une partie de l'opinion, refuse de prendre le chemin souhaité par les législateurs vers des lois plus justes. Pourtant, les femmes et les défenseurs de leur cause décident de ne pas se laisser marcher sur les pieds et continuent, c'est d'ailleurs le cas encore aujourd'hui, de s'affirmer pour consolider des acquis encore fragiles. L'actualité récente en Pologne, aux États-Unis, nous le prouve avec douleur et consternation. En Belgique comme ailleurs, la situation des femmes est sur certains sujets encore bien précaire. De l'égalité salariale au fléau des féminicides, en constante hausse. Je vous propose de nous quitter aujourd'hui avec des mots issus de l'une des prises de parole officielles parmi les plus connues concernant le droit à l'avortement. ceux de la Marianne des lois féministes. Les françaises, mais sa voix porte sur le monde. Il s'agit de Simone Veil, bien entendu. Elle nous explique au travers de ces quelques phrases son combat pour le droit à l'avortement lors de son discours à l'Assemblée nationale, entré avec elle dans la légende. Lorsque des médecins dans leur cabinet enfreignent la loi et le font connaître publiquement, lorsque les parquets, avant de poursuivre, sont invités à en référer dans chaque cas au ministère de la Justice, lorsque des services sociaux d'organismes publics fournissent à des femmes en détresse les renseignements susceptibles de faciliter une interruption de grossesse, lorsqu'aux mêmes fins sont organisés ouvertement et même par charter des voyages à l'étranger, alors je dis que nous sommes dans une situation de désordre et d'anarchie qui ne peut plus continuer. Voilà donc pour ce texte que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Valjean.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.